Chers frères et sœurs et chers amis, nous arrivons à l'étude numéro 16, toujours concernant la prière. Chers frères et sœurs et chers amis, ce qu'il faudrait à ce monde d'aujourd'hui, et avant qu'il soit trop tard, c'est un réveil universel. Voyez-vous, si nous voulons prier comme il convient à une époque comme la nôtre, on peut quand même le dire, c'est une époque épouvantable, n'est-ce pas? Alors, il faut vraiment prier, revenir à la prière comme il nous est démontré dans le psalmiste, au psaume 85, verset 7, où il est dit « Ne nous rendras-tu pas à la vie, afin que ton peuple se réjouisse en toi ?» Oui, en toi, ô Seigneur. Et voyez-vous, chers amis, qu'on le croit ou pas, cela est de la plus haute importance, de prier. Et c'est bien le monde dans lequel nous vivons actuellement qui a complètement oublié, voire même volontairement ignoré l'importance de la prière. Il est sûrement temps que l'Éternel agisse, car les hommes ont annulé sa loi, nous est-il dit dans le psaume 119, verset 126. Voyez-vous la voix du Seigneur qui retentit dans sa sainte parole écrite et réduite à néant, tant par l'Église que par le monde. Et une telle époque ne doit pas nous porter au découragement. Celui qui croit en Dieu et en la Bible ne peut jamais être découragé, mais il est temps pour Yahvé l'Éternel, oui, pour lui-même, d'intervenir et d'agir. Le chrétien avisé, sentinelle en éveil sur les murailles de Sion, peut bien crier avec le psalmiste d'autrefois en disant « Il est temps que l'Éternel agisse car ils ont annulé ta loi ». Psaume chapitre 119 verset 126. Oui, le grand besoin du jour, c'est un réveil universel. Voyons d'abord ce qu'est vraiment un réveil universel. Un réveil, c'est un retour, tout simplement, à la vie. C'est un temps où la vie est activée ou communiquée carrément par la prière. Le mot anglais que nous traduisons par l'expression courante de « réveil », c'est « revival », qui signifie littéralement « retour à la vie ». Et comme Dieu seul peut donner la vie, un réveil est donc un temps où Dieu visite ses enfants, leur communique une vie nouvelle par la puissance de son Saint-Esprit et, au travers d'eux, donne la vie en partage aux pécheurs morts par leur offense et leur péché. Il y a des excitations nouvelles venant de Dieu. Voilà ce qu'est vraiment un réveil. Dans un temps de réveil universel, cette vie nouvelle venant de Dieu n'est pas donnée seulement à quelques localités isolées, mais elle se répand à travers toute la chrétienté et sur toute la terre. La raison pour laquelle un réveil universel est nécessaire est que la disette, la désolation et la mort spirituelle sont elles-mêmes universelles. Cela ne se limite pas à un pays particulier, mais pas du tout, bien que ce soit plus manifeste en certains pays que dans d'autres. On en souffre dans les lointains champs de mission, et ceci aussi bien que dans nos pays. Et nous avons eu des réveils locaux et l'Esprit Saint, vivifiant de Dieu, a soufflé sur tel ou tel serviteur de Dieu, sur telle ou telle église, sur telle ou telle congrégation. Mais nous avons besoin, intensément besoin, d'un réveil universel. Considérons pendant quelques instants les résultats d'un tel réveil. Ceci se manifeste chez les serviteurs de Dieu, tout d'abord dans l'Église et parmi les perdus. Premièrement, les résultats d'un réveil chez un serviteur de Dieu seront les suivants. Le serviteur de Dieu ressent un nouvel amour pour les âmes. D'une façon générale, nous n'avons pas, nous serviteurs de Dieu, l'amour des âmes comme nous devrions l'avoir, comme Jésus-Christ l'avait, lui, et comme l'apôtre Paul l'avait également. Mais quand Dieu visite son peuple, le cœur de ses serviteurs est lourdement chargé du fardeau des âmes perdues. Ils sont donc mus par l'ardent désir du salut de leur prochain. Ils oublient leur ambition de pécheur, de beaucoup de sermons, hein, parce qu'ils sont pécheurs comme tout un chacun. Alors, comme nous sommes tous pécheurs, on oublie cette ambition profonde que nous devrions avoir, chers frères et sœurs, d'annoncer la parole de Dieu, pas seulement avec des beaux sermons bien formulés, pour nous rendre célèbres. Non, non, non. Nous devons être simplement, croyez-moi, assoiffés de voir des hommes qui sont amenés à Christ. Je voudrais répéter cela un peu différemment. Donc, les serviteurs de Dieu, en général, hommes et femmes, ils oublient leur ambition de prêcher de beaux sermons qui les rendent peut-être célèbres. Mais ils ont simplement soif, s'ils sont réels, s'ils sont vraiment mus, poussés par l'Esprit Saint, alors ça change tout. Ils vont donc être assoiffés profondément dans leur cœur et leur âme et leur esprit de voir des hommes et des femmes qui sont amenés à Jésus-Christ. Et quand vient un tel réveil, les serviteurs de Dieu éprouvent un nouvel amour pour la parole de Dieu et ils ont en elle une nouvelle foi. Ils jettent au vent toutes leurs doutes et leurs critiques de la Bible et des credos et ils prêchent fidèlement la Bible et surtout Christ crucifié. Les réveils rendent orthodoxes les serviteurs qui ont des doctrines relâchées. Un authentique réveil vaste et irrésistible ferait plus pour retourner les choses sans dessus-dessous et les remettre ainsi dans le bon sens que tous les tribunaux qui aient jamais été institués pour condamner les hérésies. Les réveils apporte à la prédication des serviteurs de Dieu une liberté nouvelle et une nouvelle puissance. Préparer un sermon n'est plus le grinçant labeur de toute une semaine et le prêcher une fois préparé, eh bien, ce n'est plus une épuisante dépense nerveuse. Oh non, voyez-vous, dans les temps de réveil, prêcher devient donc une joie et on peut dire un rafraîchissement. Et il y a de la puissance dans la prédication, ça change tout. Deuxièmement, Les résultats d'un réveil chez les chrétiens sont généralement aussi marqués que ses effets sur le ministère. Dans les temps de réveil, les chrétiens sortent du monde et mènent une vie mise à part pour Christ. Des chrétiens qui, auparavant, on peut dire, ont autrefois, hier, avant-hier, ils ont folâtré avec le monde, ils ont tout partagé avec l'esprit du monde, et qui jouent même aux cartes et qui dansent. Ils allaient, on a dit, au spectacle, et pas seulement cela, ils ont beaucoup de temps qu'ils utilisent, on peut dire qu'ils perdent, devant leur télévision, Internet et toutes sortes d'autres choses de ce genre. Et ils se livrent donc à toutes ces folies semblables pour abandonner le vrai, la véritable essence même de ce qu'ils devraient faire. Et quand on reçoit une vie et une lumière accrue, eh bien, croyez-moi, on découvre qu'elles sont incompatibles avec toutes ces vanités de ce monde. Dans les temps de réveil, les chrétiens ont un esprit de prière tout à fait nouveau. Les réunions de prière ne sont plus un devoir, mais ils deviennent une nécessité pour les cœurs affamés et exigeants. On trouve un nouveau goût à la pratique de la prière privée. Jour et nuit retentit la voix de la prière fervente qui est adressée à Dieu. On ne demande plus « Dieu répond-il à la prière ?» On sait qu'il le fait et on assiège le trône de la grâce jour et nuit. Dans les temps de réveil, les chrétiens se mettent au travail pour les âmes perdues. Ils ne vont pas aux réunions pour se divertir ou pour être simplement bénis. Ils y vont pour guetter les âmes et pour les amener à Christ. Ils parlent aux gens dans la rue, dans les magasins et jusque dans leur maison. La croix de Christ, le salut, le ciel et l'enfer deviennent des sujets constants de conversation, oui, plutôt de conversation, excusez-moi, et je répète pour que ça soit pas mal compris, car ma langue a fourché. Donc la croix de Christ, le salut, le ciel, l'enfer, tout cela vont devenir des sujets qui seront constants de conversation de tous les jours. Et la politique, oui, la politique, et les nouveaux scandales ou des nouvelles scandaleuses vont être oubliés. Et dans les temps de réveil, les chrétiens trouvent en Christ une joie nouvelle, car la vie, c'est la joie, et un renouveau de vie, c'est un renouveau de joie, me semble-t-il. Les temps de réveil sont des temps joyeux, des jours de ciel sur la terre. Et dans les temps de réveil, les chrétiens ont un nouvel amour pour la parole de Dieu. Ils désirent l'étudier jour et nuit. Les réveils sont fâcheux pour les bars, les discos, les salles de spectacles divers. Et troisièmement, les réveils ont aussi une influence décisive sur le monde des perdus. Ah oui, voyez-vous, avant tout, ils apportent une profonde conviction de péché. Jésus-Christ disait que lorsque l'Esprit Saint serait venu, il convaincrait le monde de péché. Selon Saint Jean chapitre 16, versets 7 et 8. Or, nous avons vu qu'un réveil, c'est l'effusion du Saint-Esprit. Par conséquent, Il faut qu'il y ait à nouveau une conviction de péché, ce qui se produit effectivement. Si vous voyez quelque chose que les hommes appellent réveil et qu'il n'y ait aucune conviction de péché, eh bien vous pouvez être assuré immédiatement que c'est une imposture. Ce signe sera certain. Les réveils amènent aussi la conversion et la régénération. Changer de façon de penser. Quand Dieu rafraîchit son peuple, il convertit toujours des pécheurs. Le premier résultat de la Pentecôte a été un renouvellement de vie et de puissance pour les 120 disciples, souvenez-vous, dans la chambre haute, pour ceux qui lisent de temps en temps leur Bible. Et le second résultat a été 3000 conversions dans la même journée. C'est pas peu dire. Oui, quand les chrétiens sont vraiment rafraîchis par le Saint-Esprit, ils cherchent tout simplement par la prière, par le témoignage et les entretiens persuasifs à ramener les perdus. Et il y a là des conversions. Nous venons de voir, chers amis, ce que est un réveil universel et ce qu'il opère. Examinons maintenant la question de savoir pourquoi il est nécessaire à l'heure actuelle. Je pense que la simple description de ce qu'il est et de ce qu'il opère montre combien nous en avons besoin, intensément besoin, mais considérons quelques-unes des circonstances particulières qui soulignent ce besoin. Signaler ces circonstances est bien propre à vous faire traiter de pessimiste. Eh bien, si regarder les faits en face s'appelle du pessimisme, je consens à être appelé pessimiste. Si pour être optimiste, il faut fermer les yeux et appeler blanc ce qui est noir, vérité ce qui est erreur et mensonge qui est la vérité, on peut dire blanc ce qui est noir, eh bien, tout cela est dangereux. Quand nous pensons que la vérité, ce qui est une erreur, or la vérité, ça ne doit pas être une erreur, l'erreur, ça doit plutôt être le mensonge. Justice, ce qui est péché, hein, la justice, ça doit vraiment être la justice et non pas le mal. Et la vie, ce ne doit pas être la mort, bien au contraire. Donc, je ne veux pas être appelé optimiste si nous disons ces choses-là aujourd'hui. Je répète la chose un peu différemment parce que c'est important, toutes ces pensées. Voyez-vous, si regarder tous les faits actuels en face et que nous allons appeler les choses d'aujourd'hui que c'est du pessimisme, eh bien, je consens à être appelé pessimiste. Si pour être optimiste, il faut fermer les yeux, les oreilles et la conscience, et appeler blanc ce qui est noir, vérité ce qui est erreur, justice ce qui est péché et vie ce qui est mort, eh bien, croyez-moi, je ne veux pas être appelé optimiste. Cependant, voyez-vous, je suis un optimiste tout de même, car reconnaître l'état réel des choses conduira, tôt ou tard, à un état meilleur. Premièrement, beaucoup de ceux qui parmi nous professent l'orthodoxie sont dans la pratique des incrédules. Ce langage est rude, mais aussi le fait est indiscutable. Il n'y a pas de différence essentielle entre les enseignements de tels éminents rationalistes et ceux de quelques-uns de nos professeurs de théologie. Ces derniers ne sont pas toujours aussi francs et honnêtes sur le sujet. Ils s'expriment en phrases plus élégantes et mieux étudiées, mais la signification est identique. Une bonne partie de ce qu'on appelle « nouvelle école » et « haute critique » n'est autre que de l'incrédulité enrobée de sucre, ou si vous voulez, de miel. Il n'y a pas grand-chose de neuf dans la haute critique. Nos futurs pasteurs sont souvent instruits par des professeurs incrédules, malheureusement. Étant des jeunes gens sans maturité quand ils entrent à la faculté ou au séminaire, ils en ressortent tout naturellement incrédules, incrédules eux-mêmes dans bien des cas, et ils s'en vont empoisonner l'Église. Combien de pasteurs savent aujourd'hui ce que c'est que lutter dans la prière, passer une bonne partie de la nuit à prier comme Jésus-Christ l'a fait? J'ignore leur nombre, mais ce que je sais très bien, c'est que beaucoup ne savent même pas prier tout simplement. Et parmi ceux qui exercent le ministère, beaucoup n'ont même pas l'amour des âmes. Je répète, parmi ceux qui exercent le ministère, beaucoup n'ont même pas l'amour des âmes. Et combien sont-ils qui poursuivent leur prédication comme l'apôtre Paul le faisait, en suppliant les hommes et les femmes en tout lieu d'être réconciliés avec Dieu? Je répète, combien sont-ils qui poursuivent leur prédication comme l'apôtre Paul le faisait, en suppliant les hommes et les femmes en tout lieu d'être réconciliés avec Dieu? Quelques-uns d'entre nous auront à se présenter devant Dieu, croyez-moi, accablés de confusion au jour terrible de la reddition des comptes qui vient tôt ou tard, sûrement et certainement. Deuxièmement, regardons un peu maintenant à l'Église. Voyez l'état de l'Église au point de vue doctrinal. Il est pas trop merveilleux, non ? Il me semble même que parfois il est mauvais, et beaucoup ne croient même pas à la Bible en son entier. Ils pensent que le livre de la Genèse, c'est tout simplement un mythe. L'histoire de Jonas, une allégorie. Ils doutent des miracles du Fils de Dieu, considèrent la doctrine de la prière comme vieillotte et ne croient absolument pas à l'œuvre du Saint-Esprit. La conversion leur paraît totalement inutile et ils ne croient plus à l'enfer. Considérez maintenant les marottes et les erreurs qui sont le fruit de cette disparition de la foi. Science chrétienne, unitarianisme, spiritisme, universalisme, guérison métaphysique, et puis on peut en passer encore, des méditations transcendantales, pourquoi pas. Ce sont toutes des doctrines d'erreur. Quelqu'un me disait, pourquoi êtes-vous si gentil de dire simplement que ce sont des doctrines d'erreur? Moi je dirais que c'est des doctrines de Satan. Excusez-moi, mais il a peut-être pas tort. Voyez maintenant l'état spirituel de l'Église. La mondanité envahit les membres de l'Église. On y danse, même on fait du théâtre. On vend des objets pour avoir un peu plus d'argent. Hein? C'est un bazar. C'est Alibaba. Beaucoup d'entre eux sont aussi acharnés que quiconque dans la poursuite de la fortune. Ils se servent des méthodes du monde pour accumuler les richesses et ils y sont aussi attachés que quiconque quand ils les ont obtenues. Les membres d'église dépourvus d'esprit de prière abondent de toutes parts. Quelqu'un a dit que les chrétiens ne passent pas en moyenne plus de 5 minutes par jour en prière. Et encore, la négligence de la parole de Dieu va de pair avec celle de la prière. Un très grand nombre de chrétiens passent 2 fois plus de temps chaque jour, si ce n'est pas 4 fois, à se vautrer dans la boue des quotidiens de la télévision, Internet et les jeux qui vont avec, qu'ils n'en passent à se purifier dans cette cuve d'airain qui représente la sainte parole de Dieu. Combien y a-t-il de chrétiens, dites-moi, qui passent en moyenne 1 seule heure par jour à l'étude de la Bible? Oh là là! Si vous saviez toutes les Bibles pleines de poussière, ou même qu'on ne sait plus très bien où on les a enfermées. Le manque de générosité va de pair avec la négligence de la prière et la négligence de la parole de Dieu, évidemment. Il y a aussi le mépris croissant du jour du Seigneur. Il devient rapidement un jour de plaisir mondain au lieu d'un jour de service divin. Les journaux, le sport du dimanche dans les journaux et toutes les autres choses superficielles, fades, avec leur bavardage futile et ces potins immondes, prend totalement la place de la Bible. Les chrétiens se mêlent au monde dans toutes sortes d'amusements douteux. Le jeune homme ou la jeune femme qui ne prend pas plaisir dans tout cela, ils sont considérés des ringards et des fanatiques dangereux. Enfin, quelle faible proportion des membres de nos églises portent réellement en communion avec Jésus-Christ le fardeau des âmes. Ça serait intéressant de savoir combien est la proportion des membres de nos églises qui portent réellement en communion avec Jésus-Christ le fardeau des âmes. Et troisièmement, regardons maintenant l'état du monde. Notez combien il y a peu de conversions. Il y a bien dans tout cela, et là, par-ci, par-là, une église qui compte un certain nombre de nouvelles adhésions. Et ces églises sont aujourd'hui considérées d'être des exceptions. Et il est même rare que ces adhérents ou ces adhésions correspondent à des conversions profondes, véritables. Oui, la conviction de péché aujourd'hui fait totalement défaut. Il est rare que les hommes, les femmes soient écrasés par le sentiment de leur terrible culpabilité alors qu'ils foulent aux pieds le Fils de Dieu. Le péché est considéré comme une malchance, une faiblesse, voire même, au fond, pourquoi pas, une bonne intention. Ah, comme c'est beau! Rarement, cela est considéré comme une monstrueuse offense contre le Dieu Saint. Je répète, le péché est aujourd'hui considéré comme étant une malchance. On a quelques faiblesses, on n'est que des humains. Parfois même, on considère cela comme étant une bonne intention. J'ai eu une bonne intention de tromper mon mari avec le mari de mon amie. Et rarement cela est considéré comme une monstrueuse offense contre la sainteté de Dieu. L'incrédulité est florissante. Oui, beaucoup considèrent comme un signe de supériorité intellectuelle le fait de rejeter la Bible et même la foi en Dieu et à l'immortalité. C'est à peu près le seul signe de supériorité intellectuelle que beaucoup possèdent, et c'est sans aucun doute pourquoi ils s'y cramponnent tellement avec tant de ténacité. Et cette incrédulité universellement répandue va la main dans la main comme cela s'est toujours vu, avec une monstrueuse immoralité. L'incrédulité et l'immoralité sont sœurs siamoises. Elles existent, croissent et s'amplifient, et ceci toujours ensemble. Cette immoralité règne donc aujourd'hui partout. Regardez cet adultère légal que nous appelons le divorce. Des hommes épousent une femme. Une femme aussi parfois après l'autre, hein, c'est la série, et continue à être admis dans la bonne société des églises. Les femmes font de même. Il y a des milliers d'hommes prétendus respectables ou respectables qui vivent ainsi avec la femme d'un autre. Alors ça, c'est pas très respectable. Et il y a des milliers de femmes non moins prétendues respectables qui vivent pareillement avec le mari d'une autre. Au pire, même avec quelqu'un du même sexe. Ah oui, de plus en plus. Il y a de plus en plus des églises prostituées, on peut le dire, qui se marient du même sexe entre eux et se font même bénir. Et cette immoralité se retrouve aussi dans les spectacles, les théâtres, la télévision. Le meilleur est déjà passablement mauvais, mais aujourd'hui, voyez-vous, les courtisans, les dégénérés et autres vils et innommables accessoires de la scène déterminent carrément le goût du jour. Oui, toutes ces choses immondes sont au goût du jour actuellement, et les femmes qui s'habilissent dans de tels rôles sont soutenues par la presse et même reçues chez des personnes où elles aussi prétendent être respectables. Or, ils ne le sont pas, c'est l'opposé. Donc, je ne pense pas que si des femmes qui s'avilissent dans des rôles douteux et qu'ils puissent être soutenus encore par-dessus tout par la presse aujourd'hui comme étant quelque chose de tout à fait normal et qu'ils sont reçus chez des personnes soi-disant de bonne société, toutes ces gens-là prétendent être respectables. Voyez-vous, une bonne partie de notre littérature est pourrie carrément. Mais des gens convenables n'en lisent pas moins telle ignoble production parce qu'elle fait fureur, parce que c'est à la mode. L'art ne sert le plus souvent que le paravent ou de paravent à une indécence carrément éhontée, et des femmes sont amenées à jeter au vent toute pudeur et, on peut dire, de perversion. Elles doivent se pervertir pour plaire aux autres. C'est une abomination. Et l'avidité pour l'argent est carrément devenue la rage du riche et du pauvre. Le multimillionnaire vendra même son âme et foulera aux pieds les droits de son prochain dans la folle espérance de devenir milliardaire. On fait la guerre et on tue les hommes comme des chiens pour améliorer le commerce et pour acquérir un prestige politique à des politiciens sans aucun scrupule qui se donnent pour des hommes d'État. Aujourd'hui, la licence des mœurs redresse en tout lieu sa tête de serpent. Oui, vous la voyez dans les journaux, vous la voyez sur les panneaux publicitaires, sur les réclames de cigares, de chaussures, voire des journaux où les motos et les voitures sont plus importantes que l'honnêteté de tous les jours. Oui, on peut dire, même sur des produits pharmaceutiques, des corsets ou n'importe quoi, vous la voyez dans les rues la nuit, partout. Vous la voyez à la porte même de l'église aujourd'hui. Ah oui ? Vous ne la trouvez pas seulement dans les affreux bas-fonds qui lui sont réservés dans les grandes villes, mais elle se presse toujours plus avant dans les rues commerçantes et les quartiers bourgeois de nos cités. Ce n'est pas seulement à la Reeperbahn de Hambourg. Hélas, chers amis, vous la trouverez même quelquefois si vous regardez attentivement dans des intérieurs présumés respectables. Ah oui, respectables, des hommes et des femmes au cœur brisé. Brisés en apporteront la confession jusqu'à vos oreilles. La condition morale du monde de nos jours est carrément répugnante. Elle est écœurante et, on peut dire, épouvantable. Nous avons besoin, chers amis, d'un réveil profond, étendu, universel, dans la puissance du Saint-Esprit. Ou bien nous aurons, croyez-moi, un réveil universel, ou bien, et ça c'est autre chose, nous verrons carrément la dissolution de l'Église et du foyer et même de l'État. Du jamais vu. Eh oui, je vous le dis, c'est dans les journaux. Actuellement, il y a même des églises qui sont à vendre. Ça, c'est pas une invention à moi. Ça se trouve dans les journaux actuellement. Chers amis, on traiterait tout à fait incomplètement le sujet. Comment prier si l'on ne considère aussi le rôle de la prière au cours des réveils? Par exemple, le premier grand réveil, le grand réveil de l'histoire chrétienne, si vous avez lu votre Bible, a été à l'origine, de la part des hommes et des femmes, une réunion de prière de 10 jours. Et nous lisons au sujet de cette poignée de disciples que tous, d'un commun accord, persévéraient dans la prière. Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 14. Je répète, tous, d'un commun accord, ça c'est très important, persévéraient dans la prière. Et nous voyons le résultat de cette réunion de prière dans le deuxième chapitre des Actes des Apôtres. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler dans d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Verset 4. De même, ce même chapitre d'Actes des Apôtres, chapitre 1, on avait bien dit, nous apprend plus loin qu'en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3 000 âmes, 3 000 personnes. C'est, je crois, au verset 41. Ce réveil s'avéra authentique et durable. Les nouveaux convertis persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Verset 42. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Verset 47. Et depuis lors, tout vrai réveil a eu pour origine humaine, simplement et toujours la prière. La prière. Le grand réveil du temps de Jonathan Edwards, et ceci au XVIIIe siècle, là l'Angleterre fut à tout point la réponse au cri importun adressé à Dieu par une sainte personne rivée à son lit. Tant que l'esprit de prière persista, alors le réveil pouvait subsister, et ceci dans toute sa force. Mais avec le temps, on usa de moins en moins de la prière et la puissance de l'œuvre diminua très sensiblement. Il est hors de doute que l'une des raisons profondes pour lesquelles beaucoup de nos soi-disant réveils modernes ne sont ni satisfaisants, ni profonds, ni réels, c'est tout simplement qu'on les fait dépendre beaucoup plus de procédés humains que de la puissance de Dieu qui est vraiment recherchée et obtenue. Par quoi ? Évidemment par la prière, de la foi, une foi fervente et une foi persévérante. Et nous vivons en un temps que caractérise l'usage sans cesse accru même des procédés humains et l'abandon de la puissance de Dieu. Le cri du jour, c'est travail, activité, labeur, organisation moderne, méthode actuelle, procédés nouveaux et Internet, etc. Or, le grand besoin du jour, ça devrait rester toujours la prière. Voyez-vous, le diable, il a fait un coup de maître, on peut bien le dire. Hein? On pourrait même dire chapeau. En obtenant que l'Église laisse complètement de côté, d'une façon si générale, cette arme très puissante que représente la prière. Le diable consent parfaitement, ah oui, à ce que l'Église multiplie les organisations et invente des procédés habiles pour conquérir le monde à Christ, si seulement elle cesse de prier. Il rit en regardant à l'Église d'aujourd'hui, et il dit en lui-même, « Peu importe vos écoles du dimanche et vos rassemblements de jeunes ou vos ligues féminines contre l'alcoolisme, le tabagisme, vos activités chrétiennes, vos troupes d'éclaireurs, vos grandes chorales et vos belles orgues, vos brillants prédicateurs et aussi tous les efforts que vous faites pour le réveil, si vous n'y faites descendre la force du Dieu Tout-Puissant par la prière. Je dis, pour autant que vous ne fassiez pas descendre la force du Dieu Tout-Puissant par la prière fervente, persévérante et pleine de foi qui seule va être efficace. La prière pourrait produire des résultats tout aussi merveilleux aujourd'hui que jamais si l'Église voulait bien s'y appliquer. Et oui, il n'est pas nécessaire d'attendre que l'Église entière s'y mette pour commencer à prier. Les grands réveils commencent toujours dans le cœur de quelques hommes et de femmes que Dieu incite par son Esprit Saint à croire en lui comme en un Dieu vivant, un Dieu qui répond à la prière et sur le cœur desquels il place un fardeau dont on ne peut trouver aucun allègement si ce n'est en criant à lui, jour et nuit, avec importunité. Puisse donc Dieu utiliser ses CD pour que beaucoup se lèvent et se mettent à prier afin que le réveil, si grandement nécessaire, puisse venir, et venir promptement. Chers amis, je voudrais encore vous donner quelques paroles d'encouragement qui me seront données pour vous les transmettre avant de prier ensemble. Appliquez-vous, oui, appliquez-vous à conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Éphésiens chapitre 4, verset 3. Es-tu brouillé avec un homme, une femme quelconque? Voici l'instruction du Seigneur. Efforce-toi avec zèle et mets tout en œuvre pour que le lien de la paix soit renoué. Quel chemin as-tu parcouru dans ce but? Quel prix as-tu payé pour conserver l'unité ou pour la retrouver là où régnait le désordre? Un lien rompu avec un homme ou une femme pourrait causer la rupture du lien entre toi et Dieu. N'oublie jamais cela. Il est également dit dans le psaume 95, verset 6, « Venez et fléchissons les genoux et adorons. » Oui, chers amis, Dieu attend des adorateurs qui en esprit se tiennent à ses pieds et lui rendent honneur, louange et gloire, ainsi qu'à l'agneau et au Saint-Esprit. Que l'on ne se taise donc jamais dans ta maison, dans ta famille et ta communauté. Là où l'on adore, le ciel s'ouvre, car l'adoration est une action divine. Ainsi donc, adore, exalte la bonté du Père Céleste, la miséricorde de l'agneau de Dieu et l'amour du Saint-Esprit. Alors, le ciel descendra aussi sur toi. Prions maintenant ensemble. Ô notre Dieu, qu'avons-nous fait pendant cette journée qui puisse nous donner lieu de croire que nous avons conservé le sentiment de ta présence et que nous avons cherché à te prouver notre gratitude et notre amour? Comment l'homme mortel se justifierait-il devant le Dieu fort? S'il veut plaider avec lui, il ne lui répondra pas sur un seul article de 1000 qu'on lui proposera. Il n'est que trop vrai, Seigneur. Il n'y a pas un de tes commandements, pas une de tes ordonnances de ta sainte parole sur laquelle nous puissions nous sentir justifiés. Et dans cette sainte parole, tu nous dis, possédez vos âmes et esprits par la patience. N'avons-nous pas sans cesse oublié cette exhortation? N'avons-nous pas livré nos cœurs à l'impatience, au murmure, en 1000 occasions et pour 1000 sujets? Tu le sais, Seigneur, lorsque ceux qui nous entourent ne le savent pas, tu vois au fond de nos âmes et esprits des mouvements d'irritation, de découragement, et lorsque ces impressions secrètes s'exhalent au dehors par des paroles vives ou amères, ton oreille les entend et elles sont inscrites dans ton livre. Si notre patience était assez affermie pour que nous puissions posséder nos âmes et esprits c'est-à-dire les maintenir dans la paix, les maintenir dans la douceur et la charité, ne nous deviendrait-il pas facile de supporter ce qui trop souvent nous déplaît et nous irrite? Et que de motifs n'avons-nous pas d'accomplir le devoir de la patience? Tu es patient envers nous, Seigneur, ne devons-nous pas, nous, le rappeler sans cesse afin d'être patient envers nos semblables? Christ, ton Fils bien-aimé, notre Rédempteur, a souffert pour nous, nous laissant un exemple afin que nous suivions ses traces. Lorsque on lui disait des outrages, il n'en rendait point. Lorsque on le maltraitait, il ne faisait point de menaces, mais se remettait à celui qui juge justement. Imitant ce divin modèle, nous devons donc être patients dans l'affliction, prompts à écouter, lents à parler et lents à nous mettre en colère. Il faut que l'ouvrage de notre patience soit parfait selon l'injonction de l'apôtre. N'oublions jamais que la longue patience du Seigneur est pour notre salut. En nous-mêmes, nous n'avons pas la force d'être patients au notre Dieu, mais en toi, nous trouvons les secours qui nous sont nécessaires. Soyons donc plus fidèles à nous réfugier près de toi, à t'implorer dans le secret de nos cœurs, et alors tu nous abandonneras jamais. Et comme nous aurons gardé la parole, ta parole, la parole de la patience, alors tu nous garderas aussi, oh oui, à l'heure de la tentation. Amen. Amen. Et chers amis, merci. Oui, merci, il faut bien le dire, pour toute la patience, pour tout l'intérêt que vous portez à ces études. Et nous continuons donc, encore pour un bon moment, la série qui est, à mon avis, une des plus importantes, sinon la plus importante, pour notre siècle actuel, qui touche, on peut le dire, de la dispensation de la grâce, qui touche, hélas, à sa fin. C'est pas moi qui le dis. Lisez simplement le dernier livre de la Bible et vous comprendrez. Alors à bientôt à nouveau. Au revoir mes très chers amis et encore merci. Au revoir.